écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, l'inquiétude de la communauté internationale concernant la Birmanie. L'ONU affirme qu'au moins 54 personnes ont été tuées depuis le coup d'État du 1er février. Les Nations Unies qui demandent la mise en place d'un embargo mondial sur les armes à l'égard de la Birmanie.
En France, des annonces face à la pandémie de coronavirus. Un nouveau confinement local décrété ce week-end dans le département du Pas-de-Calais. Le Premier ministre Jean Castex promet que 20 millions de personnes seront vaccinées d'ici la mi-mai.
Et puis un accord pour sauver une usine de nickel en Nouvelle-Calédonie. Le sujet avait divisé politiquement. Les forces de cet archipel français, qui est situé dans le Pacifique, ont signé le texte qui prévoit de sauver les 3000 emplois qui sont en jeu.
Le journal en français facile.
Elle est devenue un triste symbole de la contestation en Birmanie.
Oui, Kyal Sin, âgé de 19 ans, tué hier lors d'une manifestation à Mandalay, dans le centre du pays. L'une des 38 victimes en une journée hier, victime de la répression de la junte militaire. 38 victimes, c'est le bilan le plus lourd en 24 heures depuis le coup d'État du 1er février. Une photo de cette jeune femme est devenue virale sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle a été vue massivement. Cette photo a été prise peu de temps avant qu'elle soit touchée par un tir mortel. On voit donc cette jeune femme portant un t-shirt sur lequel est écrit « Tout ira bien ». Shui Lang est un étudiant de 24 ans qui a participé hier aux manifestations qui se sont déroulées justement à Mandalay. Joint par Cléa Broadhurst, il nous explique qu'il admire le courage de cette jeune femme.
Elle avait pris la décision d'aller en première ligne, entièrement équipée pour ces manifestations à Mandalay. Elle était très courageuse. Elle a risqué sa vie pour la démocratie. Je m'attends à ce que les militaires poursuivent leur répression et ces tueries vont continuer car leur tactique pour nous faire peur marche très bien. Ce dont ils ont le plus peur, c'est se retrouver coincés. Et ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Donc ce genre de choses va continuer avec autant de morts que mercredi, qui était une journée chaotique. Et on en souffre énormément. Mais nous avons pourtant encore deux possibilités. Soit on va gagner, soit on perd, avec beaucoup de morts à la clé. Mais je crois que les gens ne vont pas laisser tomber facilement, car nous craignons vraiment un règne militaire, donc je pense que les gens sont encore prêts à risquer leur vie.
Voilà, témoignage d'un étudiant donc, qui manifestait hier à Mandalay. Malgré la peur, de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Birmanie. Face à la répression, le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie demande que soit mis en place un embargo mondial sur les armes et des sanctions internationales, des demandes auxquelles le Conseil de sécurité doit répondre. Les condamnations sont encore multipliées ce jeudi parmi la communauté internationale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit horrifié par ce qui se passe actuellement en Birmanie et il réclame la fin de la répression militaire.
Nous avons besoin d'élargir notre portefeuille de vaccins.
Alors cette phrase est signée du directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Élargir le portefeuille de vaccins dans un vocabulaire imagé, cela veut dire avoir une plus grande variété de vaccins, ne pas dépendre de quelques laboratoires seulement. Voilà pourquoi l'Agence européenne du médicament a commencé ce jeudi à examiner le vaccin russe Sputnik V. Comment cette procédure va-t-elle se dérouler? Les réponses d'Anissa El-Jabri.
L'homologation du Sputnik V devrait prendre moins de temps que d'habitude. C'est le régulateur européen qui le dit. Cette période, qui prend en moyenne entre 2 et 4 mois, peut être raccourcie en raison d'études préparatoires déjà réalisées. Ça ne devrait de toute façon pas suffire pour aller vite. 100 millions de doses de Sputnik V pour les Européens, c'est possible, mais pour le mois de juin, pas avant. Il faut en produire pour la Russie, pour la quarantaine de pays qui l'ont déjà approuvé, mais aussi pour ceux qui l'ont commandé sans attendre le feu vert européen, la Hongrie, la Slovaquie déjà livrée, la République tchèque en attente depuis 7 semaines. Surtout pour recevoir le feu vert de Bruxelles, le fabricant du vaccin doit avoir une capacité de production sur le sol européen. Et là encore, une fois en ordre dispersé, les Européens se sont manifestés, l'Allemagne mais aussi l'Autriche. Le chancelier Sébastien Kurz, qui juge l'UE trop lente, est aussi à l'initiative pour un partenariat avec le Danemark et l'Israël pour la production de vaccins de deuxième génération. À l'épreuve preuve de la course à la vaccination, l'unité européenne s'effrite chaque jour un peu plus.
Et dans cette course justement à la vaccination, a noté aujourd'hui la décision de l'Italie. L'Italie a bloqué l'exportation vers l'Australie de doses du vaccin AstraZeneca. Raison invoquée par Rome, la pénurie persistante de vaccins et les retards d'approvisionnement de la part d'AstraZeneca. Et puis le fait que l'Australie est considérée comme un pays non vulnérable par le mécanisme de contrôle mis en place par l'Union européenne en Europe, où le nombre de cas de Covid-19 augmente à nouveau après 6 semaines de baisse. C'est l'OMS qui l'affirme.
Et face à cela, des annonces ce soir en France. Le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse.
Oui, il confirme un nouveau confinement local dans le Pas-de-Calais ce week-end. 3 nouveaux départements sont placés sous surveillance, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube. Cela porte leur nombre à 23. Concernant enfin la vaccination, Jean Castex annonce qu'elle sera possible en pharmacie en France à partir de la semaine du 15 mars et il promet au moins 20 millions de personnes vaccinées d'ici la moitié du mois de mai.
Et on reste en France, Romain, pour parler politique à présent.
Oui, les élections régionales ont lieu dans 3 mois en France et les alliances continuent de se nouer, notamment à gauche. Dernier exemple en date, dans les Hauts-de-France et dans le nord du pays, avec un pacte entre les Insoumis et les Verts. Alors c'est un pacte inattendu, les discussions se tenaient plutôt entre les Insoumis et les communistes, indirectement les socialistes, mais pas les Verts. Oui, mais après les régionales, il va y avoir la présidentielle de 2022. Aurélien de Vernois.
On ne se met pas impunément sur la route de l'ambition présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, vient d'en faire l'amère expérience. Lui qui espérait nouer une grande alliance à gauche dans les Hauts-de-France, où il emmène la liste communiste pour les régionales, vient de se retrouver largement isolé après le pacte passé entre les insoumis et les écologistes. Et si les communistes se disent surpris et déçus, la volonté affichée ces derniers mois par Fabien Roussel de présenter un candidat de son parti à la présidentielle, et pourquoi pas lui, n'est sans doute pas étrangère au choix des insoumis. Car en 2012 et en 2017, le Parti communiste s'était rangé derrière Jean-Luc Mélenchon, qui compte bien rééditer cette alliance en 2022. Côté insoumis, on jure qu'il n'y a rien de personnel contre Fabien Roussel et qu'il n'est pas question de se fâcher avec l'allié communiste. Preuve en sont, selon le parti, les listes communes LFI-PCF en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. La France insoumise, qui affirme d'ailleurs encore espérer un grand rassemblement de la gauche, avec les communistes donc, dans les Hauts-de-France.
Aurélien de Vernois du service politique de RFI.
Et puis en Nouvelle-Calédonie, un accord politique autour de la très sensible reprise d'une usine de nickel.
Oui, un accord politique qui a été signé ce jeudi entre les forces politiques de cet archipel français du Pacifique, donc entre les loyalistes, les indépendantistes et les chefs coutumiers kanaks. La reprise de cette usine de nickel est un sujet très sensible car il y a 3000 emplois en jeu et cet accord devrait permettre de sauver tous ces emplois. Alors comment cela va se passer, Ariane Gaffiouri?
L'accord qui a été trouvé va à l'encontre de ce que dénonçaient les indépendantistes qui craignent de perdre le contrôle des richesses du pays puisque Trafigura, le négociant suisse, reste dans le montage financier à hauteur de 19%. Un fonds de pension aura 30%, les 51% restants seront détenus par les salariés et les populations locales et 3 provinces calédoniennes. 1 milliard sera apporté par des actionnaires non publics. Valais, lui, laisse 500 millions dans ses caisses pour financer une installation de stockage. Mais c'est surtout l'apport de l'État, 400 millions d'euros en garantie et en prêt, qui a été déterminant dans ce projet de reprise. Sans l'intervention financière de l'État, le deal ne pouvait pas se faire, reconnaît une responsable politique locale au cœur des négociations. L'autre grande influence est le partenariat industriel conclu avec Tesla, le géant américain de construction de véhicules électriques, dont les batteries seront fabriquées par le nouveau consortium baptisé dorénavant Goro Ressources. Avec cet accord, le site devrait pouvoir redémarrer prochainement.
Ariane Gaffiouri, enfin en football, un nouvel entraîneur à Rennes. Il s'agit de Bruno Genesio, qui est notamment entraîné par le passé l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal en français facile. On rappelle, Sylvie, qu'on peut retrouver à chaque jour le script, le texte de ce journal en français facile sur Internet à l'adresse suivante, savoir au pluriel. RFI.fr. Merci Sylvie Berruet.
Merci à vous Romain Ozouil.
Bien joué. Merci à Laurie Plisson à la réalisation ce soir de ce journal en français facile. Bonne soirée à tous. 21h10 ici à Paris. Une heure de moins en temps universel.
Le goût du monde.